Bonjour, au micro Idrissa Seloudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Ici aux États-Unis, le nombre de décès dus au coronavirus frôlait les 90 000 hier. Selon l'université Johns Hopkins, il y a eu dans le pays 820 nouveaux décès au cours des dernières 24 heures, soit le bilan le plus bas enregistré depuis le 10 mai. En Europe, des dizaines de millions d'habitants ont joui d'un premier week-end de relative liberté, alors que se poursuit aujourd'hui un lent retour à la normale avec une nouvelle levée de restrictions. En Italie, la basilique Saint-Pierre de Rome rouvre ses portes au public et l'acropole d'Athènes rouvre aussi, comme tous les sites archéologiques en Grèce. Les trois géants de l'automobile américaine reprennent la production ce lundi, mais l'inquiétude reste grande sur les chaînes de montage où il est difficile de garder ses distances. Et puis, selon le patron de la Banque centrale américaine, Jerome Powell, pour que l'économie se rétablisse complètement, il faut que les gens retrouvent pleinement confiance. Il faudra peut-être attendre l'arrivée d'un vaccin, a-t-il estimé. Les 194 pays de l'OMS se réunissent ce lundi virtuellement pour la première fois de son histoire afin de débattre de la réponse internationale à la pandémie avec les tensions sino-américaines et les discussions sur une éventuelle invitation à Taïwan et les vaccins comme sujet de friction. En Afrique de l'Ouest, les groupes djihadistes gagnent de l'influence dans la région du nord-ouest du Nigeria, qui pourrait devenir un pont entre les différents mouvements entre le Sahel et la région du lac Tchad, a mis en garde ce lundi l'ONG International Crisis Group. Le nord-ouest du Nigeria est aussi le foyer depuis de nombreuses années de groupes criminels qui terrorisent les populations et attaquent les civils pour voler le bétail ou les terres. Au Bénin, les électeurs se sont rendus sans grand entrain aux urnes dimanche pour élire leurs conseillers municipaux. Nous y reviendrons en seconde partie de cette édition. Au Burundi, les deux principaux candidats à la présidentielle de mercredi ont jeté leurs dernières forces dans la bataille samedi et dimanche au terme d'une campagne électorale tendue. Nous y reviendrons également. En République démocratique du Congo, la province de l'Ituri, dans le nord-est, a été dimanche le théâtre d'une nouvelle tuerie d'au moins 20 civils qui viennent s'ajouter aux quelques 1000 victimes et aux dizaines de milliers de déplacés depuis décembre 2017. Et puis, il y a eu sur le lac Kivu, près de Bukavu, en RDC, un naufrage qui a fait au moins un mort et plusieurs disparus. Notre correspondant Ernest Moero, dans un instant. Au Zimbabwe, le chef de l'opposition, Nelson Chamisa, du mouvement pour un changement démocratique, a accusé la police d'avoir arrêté, frappé, agressé sexuellement et torturé trois de ses jeunes responsables, retrouvés vendredi grièvement blessés, deux jours après avoir participé à une manifestation contre les pénuries alimentaires. En Afghanistan, au moins 5 personnes ont été tuées et des dizaines blessées par l'explosion d'une voiture piégée dans la ville de Ghazni, dans l'Est. En Israël, après 500 jours de crise et 3 élections peu concluantes, le Parlement a entériné hier dimanche le gouvernement d'union nationale de Benjamin Netanyahou et Benny Gantz, mettant fin à la plus longue crise politique de l'histoire de l'État d'Israël. Le chef de la diplomatie iranienne, Mohammed Javad Zarif, a mis en garde hier les États-Unis contre toute action de la marine américaine dans la Caraïbe qui viserait à perturber la livraison de pétrole iranien au Venezuela. En Chine, les autorités ont de leur côté répété dimanche qu'elles prendraient les mesures qui s'imposent pour défendre Huawei et les autres entreprises chinoises après la décision des États-Unis de barrer l'accès du géant des télécommunications à la technologie américaine des semi-conducteurs. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC, au micro Idrissa Seloudia, restez à l'écoute. sud de nos informations, au sud Kivu, une barque de plaisance avec à son bord une vingtaine de personnes a connu un naufrage aux abords de la ville de Bukavu. Bilan provisoire, un mort, 12 rescapés et près de 10 personnes portées disparues, selon un tweet du gouverneur du sud Kivu. D'autres sources parlent de 2 morts. Ernest Mouero, notre correspondant sur place.
Le bilan d'un mort est confirmé par des sources de la force navale sur l'axe Mumba, d'où est partie l'embarcation. Mais des membres d'une famille ayant perdu leur fils dans l'accident confirment le deuxième décès. Selon un témoin du drame, l'accident a eu lieu samedi vers 15h. Un groupe de passagers, à majorité de jeunes, avait embarqué dans les petits bateaux pour une randonnée sur le lac Kivu. L'embarcation a chaviré à la tombée de la nuit. Une nouvelle qui a suscité bien des tristesses dans la ville, où des photos de ces jeunes en randonnée ont largement circulé sur les réseaux sociaux. Des jeunes en majorité bien connus dans les milieux du basketball de Bukavu. Dimanche, les familles des disparus tentaient de retrouver les corps de leurs proches. La force navale, quant à elle, a lancé des recherches sur le lac. L'embarcation appelée la Payotte appartient à un Allemand qui fait partie des rescapés du naufrage. Ernest Mouero, Bukavu, pour VOA Afrique.
Dernière ligne droite avant la présidentielle de mercredi au Burundi, les deux principaux candidats ont durement mené campagne ce week-end, malgré le coronavirus, alors que des médecins accusent le pouvoir burundais de cacher des cas. Bagasikura.
Les Burundais sont appelés aux urnes mercredi pour des élections générales, dont une présidentielle qui met aux prises 7 candidats, parmi lesquels celui du parti au pouvoir, Évariste Ndayishimiye, présenté comme l'héritier du président sortant Pierre Nkurunziza, et Agathon Rwasa, le principal opposant. Les militants du CNDD-FDD au pouvoir ont oublié le temps d'un grand meeting à Bujumbura, la panique qui commence à monter dans cette ville où de plus en plus de personnes présentant tous des symptômes du Covid-19 décèdent à l'hôpital ou à leur domicile sans avoir été testées. Le pays ne compte officiellement que 42 cas, dont un décès. Devant ses partisans, le général Évariste Ndayishimiye a lancé « Je ne prendrai pas de repos tant que je n'aurai pas vu tous les Burundais devenir riches et heureux ». De son côté, Agathon Rwasa a terminé sa campagne lors d'un meeting géant organisé sur un aérodrome situé à une dizaine de kilomètres de la capitale administrative du pays, Gitega, et que ses partisans ont rejoint au pas de course en entonnant leur chant de ralliement « Vainquons les voleurs invétérés ». Depuis le début de la campagne, l'opposition dénonce des élections qui vont se dérouler à huis clos sans aucun observateur international ou national et indépendant comme l'Église catholique ou la société civile.
Les États-Unis et l'OTAN saluent l'accord de partage du pouvoir signé entre le président afghan Ashraf Ghani et son rival Abdullah Abdullah. Le point avec Abdulrahman Dia.
Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a félicité les deux personnalités politiques pour leur accord sur une gouvernance partagée de l'Afghanistan, a annoncé son porte-parole Morgan Ortagus. La priorité pour les États-Unis reste que les deux dirigeants signent un accord politique pour mettre fin au conflit et Mike Pompeo salue l'engagement des deux responsables à rouvrir les négociations inter-afghanes, a ajouté Morgan Ortagus en référence à l'ouverture de pourparlers de paix avec les talibans prévus par l'accord. Washington a déjà signé en février un accord avec les talibans qui prévoit un retrait des troupes étrangères sous 14 mois. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a lui aussi salué l'accord. L'accord intervient après des mois d'une querelle qui a plongé le pays dans une crise politique et retardé l'ouverture de négociations de paix inédites avec les talibans. Le texte prévoit que M. Abdullah prenne la tête de ses pourparlers. Le président Ashraf Ghani a estimé qu'il s'agissait là d'un jour historique pour son pays et assuré que l'accord avait été trouvé sans l'aide d'une médiation internationale.
La Minute Éco, Magasin Koura.
Touché par une rechute de son tourisme en raison du nouveau coronavirus, mais relativement épargné par la pandémie, la Tunisie cherche à limiter les dégâts pour ce secteur clé en mettant l'accent sur des strictes mesures d'hygiène et en ciblant un marché surtout local. Le tourisme tunisien souffre d'un manque à gagner de 6 milliards de dinars, soit 2 milliards d'euros, à cause de la pandémie du COVID-19, estime l'Office national du tourisme tunisien. Quelque 400 000 emplois sont menacés dans le secteur du tourisme dans le pays. Le taux d'inflation au Soudan a encore grimpé, atteignant 99% en avril, du fait de la hausse des prix des denrées alimentaires, selon le Bureau central soudanais des statistiques. Ce taux était déjà monté à 82% le mois précédent sur un an. Mais l'augmentation des prix des céréales, de la viande, du lait et du pain a encore accru l'inflation. Le patron de la Banque centrale américaine estime que la première économie du monde ne pourra se remettre totalement du choc provoqué par la pandémie du COVID-19 qu'avec un vaccin, dans une rare interview au ton plutôt optimiste. L'administration Trump a retenu 14 candidats à un vaccin et promet de pouvoir fournir des centaines de millions de doses à la population américaine d'ici janvier 2021.
Les sports à présent avec Élisée Onpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football, la Bundesliga a repris ce week-end dans des stades à huis clos.
Oui, et le Borussia Dortmund, vainqueur 4-0 de chaque 0-4, n'a pas manqué sa rentrée. Une victoire qui lui permet de conforter sa seconde place, reléguant Leipzig accroché 1-1 par Fribourg à 3 points. Le Bayern de Munich, leader du classement, s'est imposé sur le terrain d'Union Berlin 2-0. Dans les autres rencontres, le Hertha Berlin a écrasé Hoffenheim à l'extérieur 3-0. Düsseldorf et Paderborn se sont neutralisés 0-0. Et Wolfsburg est allé s'imposer sur le terrain d'Augsbourg 2-1.
Sur le continent africain, la CAF a annoncé le versement des primes de participation aux clubs engagés dans ces compétitions.
Et c'est compte tenu des préoccupations croissantes et de l'évolution de la pandémie de COVID-19, entraînant la suspension des activités de football à travers le continent, que la CAF a décidé d'accélérer le paiement de la dernière tranche de récompenses financières aux clubs participants aux compétitions interclubs de cette année. Les clubs recevront leurs cotisations en fonction de l'argent établi pour chaque compétition jusqu'à la phase de quart de finale, lorsque les deux compétitions ont été suspendues indéfiniment à raison de la pandémie de coronavirus. Le minimum garanti pour les clubs participant à la Ligue des Champions est de 550 000 dollars US et de 275 000 US pour la Coupe de la Confédération.
Élisée, le Sénégal a arrêté son championnat de football.
Exactement, Idrissa. Après la réunion du comité d'urgence, il est proposé de différer les différents championnats au mois de novembre 2020. Le président de la Ligue, Saïd Sek, trouve que la décision de la fédération est paradoxale. On l'écoute.
Il faut que les équipes puissent entrer en préparation. S'étant arrêté depuis le mois de mars et n'ayant joué en un an quasiment et demi que 13 à 15 matchs, si on compte les 13 matchs de championnat et les 2 matchs de coupe, il serait très difficile pour nous de reprendre sans une préparation foncière importante. Or, qui dit préparation foncière importante, dit une préparation d'au moins 6 semaines. Ce qui nous amènerait sur tout octobre et au moins la mi-novembre. Il reste 13 journées de championnat à jouer en Ligue 1 et en Ligue 2. Si on souhaitait reprendre 13 semaines, c'est-à-dire 3 mois quasiment, ce serait effectivement jouer à partir du 15 novembre, 15 décembre, 15 janvier jusqu'au 15 février. Ce qui serait impossible du fait qu'on ne pourrait pas enchaîner une autre année sportive 2020-2021 à partir du mois de mars, étant entendu que 2021 est une année de Coupe d'Afrique. Et c'est la raison pour laquelle, donnant la priorité au terrain, prenons en compte qu'il sera impossible de commencer même à s'entraîner avant fin septembre, la fédération a pensé à trouver une formule qui, même si elle n'est pas satisfaisante, est la moins insatisfaisante possible pour permettre effectivement que le terrain puisse dicter qui est champion, qui va monter, qui va descendre.
À l'instant, Saïd Sek, le président de la Ligue de football du Sénégal, au micro d'Amédine Sy. Il faut préciser que le Maroc aussi étudie l'éventualité de la reprise de son championnat. Une lettre de mission a été soumise à la commission mise en place afin de trouver une solution pour la reprise de cette activité.
Ah,
aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sedulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Bénin, les populations sont allées aux urnes pour les élections municipales et communales après une campagne électorale difficile. Ces élections interviennent en effet dans un climat exceptionnel lié à la pandémie de coronavirus. Même si ce n'était pas la grande affluence, le vote a quand même eu lieu. Les détails avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
Au total, 5 partis politiques étaient en lice pour les élections communales et municipales de ce dimanche. Il s'agit du Bloc républicain, de l'Union progressiste, tous deux de la mouvance présidentielle, des Phosphori pour un Bénin émergent, dont s'est retiré l'ex-président Yahi Boni du Parti du Renouveau démocratique, de Maître Adrien Roumbédi de l'Union démocratique pour le Bénin nouveau, de Claudine Prudencio. Depuis l'avènement de la démocratie au Bénin, c'est la première fois qu'une poignée de partis politiques participent à une élection municipale et communales. Ce dimanche matin, les citoyens se sont rendus dans les bureaux de vote, munis de leurs masques de protection et pour certains de leurs produits désinfectants. Joseph Diogbenou, président de la Cour constitutionnelle, donne ses appréciations après avoir accompli son devoir civique.
Nous observons que les règles que l'État appelle à observer le sont. Et de ce point de vue, il faut saluer les uns et les autres.
Venu accomplir son devoir civique, l'opérateur économique Gassien Adjagoni, lui-même candidat, s'est dit heureux de constater la prise de conscience des électeurs qui scrupuleusement ont observé les mesures de protection prises par le gouvernement.
Les populations ont fait l'effort de respecter les gestes barrières pour que ces élections ne deviennent pas un vecteur de propagation du virus. C'était pas gagné à l'avance.
Des dénonciations de fraude signalées par endroits, des populations n'ayant pas de masque de protection, alignées dans des rangs serrés sans aucun respect de la distanciation sociale. Ce sont là quelques dysfonctionnements signalés et pour lesquels le président de la Commission électorale nationale autonome, à la tête d'une équipe, est allé vérifier. À la fin de sa ronde, il a fait le point à la presse. Emmanuel Tiando est le président de la Sénat.
C'est vrai qu'on a appris qu'il y a eu, ça et là, quelques petits problèmes liés aux membres des postes de vote qui auraient été permutés. Ça s'est fait en dépit des consignes que la Sénat avait données. J'ai aussi appris, mais ça c'est encore à vérifier, qu'il y aurait eu des bulletins pré-estampillés. Les gens font la confusion, tout simplement, entre l'authentification et l'identification du bulletin de vote.
Ces élections ont été boycottées par la résistance, le mouvement créé par l'ancien président Nicéphore Soglo et certains ténors de l'opposition, dont Boni Yahi et Candide Azanaï, et qui est très critique vis-à-vis du pouvoir talent. La veille des élections, elle avait appelé les Béninois à rester chez eux à cause du risque de contamination. Dans un mot d'ordre lu par Joseph Tamagnon, un des membres du mouvement, les résistants appellent les Béninois à ne pas sacrifier leur bien-être pour les intérêts des politiciens insouciants.
Nous voudrions vous inviter à rester chez vous le 17 mai 2020. Ne prenez aucun risque en sortant ce jour de parodie.
En plus de contrôler le Parlement, s'achemine-t-on vers le contrôle des communes par la mouvance présidentielle? Il se dit en tout cas dans les sphères politiques que si le pouvoir talon arrive à rafler le plus grand nombre de mairies, il lui sera facile d'asseoir son hégémonie au cours des élections présidentielles de 2021. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Réduction du chômage au Cameroun, une initiative agricole redonne de l'espoir aux jeunes diplômés. Elle a été mise sur pied par 5 jeunes sous la houlette de l'association Un diplômé en champ. Les bénéficiaires diplômés de l'enseignement secondaire et universitaire sont formés à la pratique des activités agropastorales. Plus de 3000 jeunes se sont déjà intéressés à cette initiative. De Yaoundé, la correspondance de Emmanuel Julta.
Depuis 9 mois environ, l'association Un diplômé, un champ exploite les terres. Sur 1,5 hectare dans la localité d'Akwa Maria, une banlieue située à une vingtaine de kilomètres de Yaoundé. Le site sert de champ témoin dans le cadre du projet. C'est sur l'un de ces espaces que nous rencontrons Ahmed Ngo, étudiant en 3e année physique à l'université de Yaoundé 1. Il est payé par l'association pour effectuer uniquement certains travaux dans ce champ.
Je passe 3 jours au travail. On vient à 7h, pratiquement à 15h, on quitte les lieux.
Pour l'instant, nous sommes dans un champ de maïs. Nous sommes en train d'enlever les herbes. Les jours précédents, j'étais en train de faire les pastèques.
L'association Un Diplômé, Un Champ encourage les jeunes à mutualiser leurs initiatives de projets agro-pastoraux. Roberto Gracias Bacchina, secrétaire exécutif de la dite association, nous conduit dans un champ communautaire créé à cet effet.
Ça, c'est un champ de maïs où il y a 4 jeunes qui ont mis de leurs moyens et qui viennent de temps à autre pour faire de la pratique agricole. Et à la fin, à un diplômé, un champ, nous allons racheter la production.
Les 4 jeunes réunis pour la production de maïs dans ce champ ont été sélectionnés à l'issue d'un appel à projet lancé sur les réseaux sociaux. Alain-Georges Lietbourg, promoteur de l'association Un Diplômé, Un Champ.
Nous disons par exemple que nous comptons mettre sur pied 1 hectare de maïs. Nous avons besoin des jeunes passionnés ou alors qui ont besoin d'investir dans ce domaine, qui se mettent ensemble, nous les organisons. Nous avons pu lever un peu plus de 700 000 francs CFA qui va nous permettre de financer ce champ. On a commencé avec le maïs, on est en train de mettre actuellement les poquets pour la pastèque. Le terrain se prépare également pour mettre les concombres. Ils ont tellement été contents par cette initiative qu'aujourd'hui nous demandent encore de lancer l'autre projet sur l'élevage de poulets.
Plus de 3 000 jeunes, selon les responsables de l'association, ont marqué leur intérêt pour l'initiative. Ces sessions de formation à l'agriculture et à l'élevage de poulets de chair ont été organisées entre octobre et le mois de mai en faveur de certains jeunes, parmi lesquels Soulemanou Fouaki, ingénieur électrotechnicien.
Mon champ expérimental qui va sur une superficie de 2 hectares, c'est sur le maïs et les concombres. Nous sommes en train de faire face à une pandémie mondiale qui est le Covid-19. Nous risquons de faire face à ce qu'on va appeler la famine. Donc c'est donc pour prévoir ce risque de famine que nous pensons que la meilleure voie présentement serait celle de l'agriculture.
Les jeunes affluent de plus en plus au siège de l'association Un Diplômé, Un Champ, au quartier Oufoulane, dans le 3e arrondissement à Yaoundé. Marcus Médard Nganbé est titulaire d'un Master 2 en physique et s'apprête à démarrer un projet d'élevage et de poulet de chair.
Je compte commencer avec 100 sujets et je serai encadré par l'association Un Diplômé, Un Champ.
Le Cameroun a un riche potentiel agricole. Le pays dispose de 71 250 km de terres arables, dont seulement 29% sont jusqu'ici exploités. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Au Gabon, cette semaine sonne la fin du rapatriement des citoyens en attente de retour au pays depuis la fermeture des frontières. Cette opération concerne exclusivement les Gabonais en situation de court séjour à l'étranger. Ils sont un peu plus de 1000 personnes victimes des restrictions de déplacement à l'international après l'annonce des premiers cas de contamination au Covid-19 sur le continent. Retour sur cette opération de rapatriement des Gabonais de l'étranger avec notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
La détresse d'une mère de famille sur les réseaux sociaux depuis Dubaï. Elle faisait partie du contingent de Gabonais bloqués à l'étranger alors que leur pays venait tout juste de se barricader pour limiter la propagation du coronavirus sur son sol. Parvenue aux autorités gouvernementales, l'alerte des internautes va être aussitôt suivie d'une annonce officielle de rapatriement de toutes les personnes victimes de cette mésaventure. Soulagé d'être enfin de retour à Libreville, Marius Malikou, qui rentre d'un voyage d'affaires au Cameroun voisin, raconte les difficultés de certains de ses compatriotes sur place.
Il y a des compatriotes qui ont eu des problèmes sur place, qui ont eu à dormir belle étoile, tout simplement parce que l'ambassade ne répondait pas correctement à leurs préoccupations.
Dans ce vol spécial en provenance de Yaoundé, Pascal Assoumou est un privilégié de ce voyage qui coïncide avec la fin de son stage d'officier des forces de sécurité dans la capitale camerounaise. Il salue la promptitude des autorités dans cette opération.
Je vais d'abord les remercier d'avoir répondu promptement au rapatriement de nombreux Gabonais à l'étranger, en commençant déjà par l'Afrique centrale.
Les retrouvailles entre les rapatriés et leurs familles à l'aéroport international de Libreville étaient par contre sobres en raison des règles de distanciation sociale à respecter en cette période de crise sanitaire. Pour Michel Junior Rengon, l'essentiel est dans ce rêve qui devient réalité. il vient d'accueillir sa petite famille.
Ma fille, elle a fait 2 ans. Elle a passé sa deuxième année à Yaoundé. Et donc, partie très jeune. Je trouve qu'elle est très vieille aujourd'hui.
Le gouvernement gabonais est passé par une identification des Gabonais concernés par le rapatriement, soit 1200 répartis dans 23 pays à travers le monde. Alain-Claude Bilibizé, ministre d'État aux Affaires étrangères.
Nous avons donné instruction à nos missions diplomatiques et à nos postes consulaires de les accompagner du mieux. Il est vrai que nous ne sommes pas présents dans tous les pays, mais les juridictions couvrent. D'autres pays, c'est le système. Donc on va examiner la meilleure manière de les accompagner, mais dans tous les cas, on ne les laissera pas tomber.
Tous les Gabonais rapatriés d'étrangers sont placés en isolement pour un test de dépistage au Covid-19. Les autorités veulent s'assurer qu'ils ne représentent aucun danger pour leur famille avant de les libérer. Libreville, Ismaël Obianzé, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Burkina Faso, après une première tentative l'année dernière, la statue du président Thomas Sankara trône désormais au Conseil de l'Entente à Ouagadougou depuis ce dimanche. La première version avait été vertement critiquée et le Comité international mémorial Thomas Sankara avait été obligé de demander à l'artiste de reprendre l'œuvre. Et cette fois-ci, si la nouvelle statue semble être acceptée par beaucoup, elle ne met pas fin à la polémique sur la ressemblance. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Après son premier dévoilement, la statue de Thomas Sankara, le père de la révolution burkinabé, est désormais au Conseil de l'Entente, lieu où il avait été tué, ainsi que 12 autres de ses compagnons le 15 octobre 1987.
Toute œuvre humaine n'est pas parfaite.
Innocent Nana, neveu de Thomas Sankara.
Nous, la famille, nous saluons. C'est déjà l'engagement, c'est déjà le courage, l'honnêteté, c'est ce que nous saluons d'abord.
Le premier dévoilement de la statue en présence de John Jerry Rawlins, ancien président du Ghana et ami de Sankara, avait suscité de fortes critiques. Beaucoup estimaient que la statue avait peu de ressemblance avec Thomas Sankara. L'œuvre de 8 mètres de haut, pèse 13 tonnes, a donc été dévoilée d'image. On voit le capitaine Sankara en tenue militaire, le poing serré, la main gauche levée. Roland Compaoré apprécie la nouvelle statue.
Le verre abouti parce que, et il sera encore plus abouti que celui-là, pour des années et des années, pour des siècles et des siècles. Mais cette fois-ci, je pense que c'est la bonne. Et tout le monde est content parce que vraiment, ça y semble vraiment Sankara.
Kalouna, une musicienne qui s'est surnommée la fille de Sankara, était aussi à cette cérémonie.
Au début, ça ne ressemblait pas à Sankara, mais actuellement, j'ai vu l'image de plusieurs côtés et je salue l'œuvre et toute l'équipe.
Le sculpteur lui explique ce qui n'avait pas marché.
Dans mon pays, malheureusement, le marché public est soumis à certaines exigences.
Jean-Luc Bambara.
Et pour obtenir un marché, il faut se plier à ces exigences du marché public, qui donne 120 jours. Donc j'ai disposé de 120 jours pour réaliser ces statuts. Vous savez, dans mon pays, il fait souvent excessivement très chaud. Nous avons travaillé à partir de la technique de la cire perdue. La cire perdue est une matière qui est très sensible à la chaleur. Donc au moment, malheureusement, de la réalisation de cette œuvre, il faisait très chaud. Si bien que certaines parties de l'œuvre ont subi des déformations, ce n'est pas une belle excuse, j'assume. Je ne dis pas aussi pour me disculper.
Du côté du comité mémorial Thomas Sankara, on pense déjà à parfaire d'autres statues de Thomas Sankara. Luc Damiba en est le secrétaire général.
Et il se pourrait qu'il y ait d'autres statues faites avec de nouvelles technologies pour correspondre aux désirs des citoyens, parce que les citoyens veulent une photographie légalisée, conforme, exacte de Sankara sur chose. Mais pour l'instant, ce que nous voyons ici, ça a des traits qui ressemblent à Sankara.
La statue qui a coûté 150 millions de francs CFA, plus de 247 000 $ américains, n'est qu'une petite partie de l'ensemble d'un projet qui ambitionne d'avoir une tour géante de 80 mètres, avec des infrastructures comme un musée, une bibliothèque, des salles polyvalentes, des commerces, un parc et bien d'autres infrastructures, selon les initiateurs. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sebudia et de Michel Joseph à la Mise du Monde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.